France Inter.
Les informations d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir à tous. Dimanche soir et des comptes à rebours dans l'actualité. Au Proche-Orient d'abord, Israël attend ses otages. Dans les prochaines heures, le Hamas s'est dit prêt à les relâcher mais pose encore ses conditions. À Madagascar, ensuite, où le président Razoueli ne tient qu'à un fil, la génération Z, la jeunesse en colère, connectée, a gagné. Le soutien de l'armée, la grande île pour échanger de main. Et en France, le tic-tac de la pendule sur le bureau de Sébastien Lecornu pour composer son gouvernement. Tous les partis jouent leur va-tout. Bercy et Matignon-Fignol, le projet de budget 2026 qui doit être présenté demain. Quelles sont les marges de manœuvre? On pose la question dans ce journal à un constitutionnaliste. Et on ira à Évreux aussi. Ousmane Dembélé est venu présenter son ballon d'or sur les terres de son enfance. La météo, Céline Dacosta, demain ce sera sensiblement le même temps qu'aujourd'hui.
Oui, toujours beaucoup de grisaille au lever du jour, du soleil ensuite, sauf au nord de la Loire où la grisaille sera persistante avec même quelques bruines.
Météo complète à la fin de ce journal.
France Inter.
Une nation entière dans l'attente du retour de ses otages. Israël retient son souffle ce soir, à quelques heures de la libération promise, des 48 encore retenus dans la bande de Gaza. Étape clé du processus de paix et de l'accord conclu sous l'égide de Donald Trump. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est montré pressant cet après-midi. Son pays est prêt à accueillir immédiatement tous les otages encore en vie ou leurs dépouilles. Bonsoir Valérie Crova.
Bonsoir Amélie, bonsoir tout le monde.
On vous retrouve en direct de Tel Aviv où l'on compte les heures. Le Hamas dit avoir terminé les préparatifs, Israël aussi.
Oui, c'est la porte-parole du Premier ministre israélien qui l'affirme. Les 20 derniers otages encore en vie seront libérés demain matin dès les premières heures. Ils seront relâchés ensemble, puis remis à la Croix-Rouge qui les transportera dans 6 ou 8 véhicules, a-t-elle précisé. Tout est désormais en place pour les accueillir. Le chef d'état-major israélien Eyal Zamir a donné son feu vert pour que les otages soient ensuite transférés sur la base militaire de Reim dans le sud du pays. Les otages seront ensuite emmenés par hélicoptère vers 3 hôpitaux de Tel Aviv et de sa banlieue.
Mais ça, c'est sur le papier, Valérie. Chacun continue de poser ses conditions.
Oui, Amélie, vous connaissez l'expression. Le diable se cache dans les détails. Les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles ne commenceront à libérer les 2000 détenus palestiniens qui doivent être relâchés dans le cadre du plan négocié avec le Hamas qu'à partir du moment où elles auront la certitude que tous les otages ont été rendus, y compris les dépouilles des 28 Israéliens décédés, sauf que certains corps n'auraient pas été localisés par le Hamas. De son côté, le mouvement islamiste continue d'exiger la libération des 7 principaux leaders palestiniens par Israël, dont le plus célèbre d'entre eux, Marwan Barghouti. Or, il ne figure pas sur la liste transmise par l'État hébreu.
Valérie Crova à Tel Aviv pour France Inter avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Merci à tous les deux. En tout cas, Israël annonce ne pas vouloir participer au sommet international pour la paix prévu en Égypte demain, sommet présidé par Donald Trump avec son homologue égyptien et une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier pour saluer la signature de cet accord de paix. Emmanuel Macron fait le déplacement pour la France, mais aucun responsable israélien ne participera, annonce le gouvernement aujourd'hui, pas plus que le Hamas d'ailleurs. C'est la correspondance au Caire de Justine Babin.
Les médias étatiques égyptiens font tous leur gros titre sur la conférence internationale sur l'avenir de Gaza, qui s'ouvre demain dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. De nombreux chefs d'État sont attendus, dont l'américain Donald Trump. Selon le quotidien Al-Ahram, ce sommet vient, je cite, « couronner les efforts de l'Égypte pour mettre fin à la guerre à Gaza et consolider la stabilité au Moyen-Orient ». Médiateur clé de ce cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, l'Égypte entend bien réaffirmer son rôle de puissance régionale et obtenir la reconnaissance de ses efforts, tant sur la scène internationale qu'auprès de sa propre population. Si tout se déroule comme prévu demain matin, on s'attend à des poignées de main et des sourires devant les caméras du monde entier. Mais après les images, viendront les discussions plus épineuses. Autour de la table, les deux autres pays négociateurs, Qatar et Turquie, mais aussi plusieurs pays arabes et européens, dont la France. Au menu, le désarmement du Hamas, le retrait israélien de Gaza et la future gouvernance de l'enclave. Autant de sujets sensibles qui seront abordés sans la présence ni d'Israël ni du Hamas. Justine Babin, Le Caire, France Inter.
Quant aux Européens, ils voudraient aussi peser au Proche-Orient. À Paris, le ministre démissionnaire des Affaires étrangères assure que l'Union européenne va très vraisemblablement augmenter sa présence sur le terrain à Gaza une fois le cessez-le-feu durablement établi. Jean-Noël Barrot rappelle que l'Europe est déjà présente à travers deux missions au poste frontière de Rafah, mission de surveillance et une autre mission de formation des policiers palestiniens. La Gen Z est-elle en train d'avoir la tête du pouvoir à Madagascar? La génération Z, cette jeunesse née après l'an 2000, à l'ère des réseaux sociaux, à force de manifestations, a rallié le soutien d'une partie de l'armée malgache. Des militaires disent avoir pris le contrôle des forces armées. Le président Razouline dénonce une tentative de prise de pouvoir illégale. Un soulèvement suivi de près, en ligne, par la jeunesse malgache installée en France. Bonsoir Clémentine Sabrier.
Bonsoir à tous.
Vous avez rencontré deux étudiantes connectées en permanence avec leur famille et les événements à Madagascar.
Elles passent toutes les deux beaucoup de temps sur leur téléphone. Sabrina, 23 ans, s'informe sur les réseaux sociaux.
Je suis beaucoup ce qui se passe à Mada et je trouve que c'est quand même assez triste que ce sont les gens de la politique eux-mêmes qui agressent les jeunes plutôt que de les soutenir et de les protéger.
Même si beaucoup de ses camarades ne souhaitent pas parler par peur des représailles du gouvernement, la jeune femme sait qu'ils soutiennent le mouvement.
Les étudiants malgaches qui vivent ici, enfin, c'est sûr qu'on est censé être du côté de notre pays et du côté de la jeunesse qui est là-bas également.
Comme elle, Hélène est derrière la Gen Z. Elle accuse même le gouvernement de laisser faire les pillages dans certains quartiers. Elle dit avoir vu des vidéos qui attestent sa thèse sur les réseaux et s'inquiète pour ses parents qui sont encore là-bas.
Des fois, on est obligé de rester au téléphone pendant toute la nuit avec les parents parce que on a peur que quelque chose leur arrive ou des choses du genre. On essaie au maximum d'être là pour eux, même de loin en fait.
Une situation qui la rend triste. Elle est frustrée de seulement vivre ces événements à travers les réseaux sociaux, mais elle reste pleine d'espoir pour l'avenir de son pays.
Merci Clémentine Sabrier. De son côté, Air France suspend ses vols entre Roissy-Charles de Gaulle et Tananarive, la capitale malgache, jusqu'à demain inclus, à cause de la situation sécuritaire précaire. Air Austral, l'autre compagnie française opérant entre La Réunion et Madagascar, a annulé un vol hier, mais a maintenu les autres aujourd'hui. Un gouvernement dès ce soir, ou faudra-t-il attendre le retour d'Emmanuel Macron de son voyage en Égypte demain ou mardi? En tout cas, le Premier ministre Sébastien Lecornu planche sur sa nouvelle équipe. Et il est reparti de zéro, fait-il savoir. Même si certains voudraient rempiler Annie Genevard à l'agriculture, Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères. Laurence Perron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous faites vivre ce week-end politique intense sur France Inter. Et chaque prise de parole politique a ressemblé ces dernières heures à une partie de poker menteur avec la dissolution en épouvantail.
Et oui, sur ce point, LFI et le RN n'ont jamais varié. Il faut un retour aux urnes et de préférence une présidentielle anticipée afin de tourner la page du macronisme. Si Édouard Philippe a fait sienne cette idée parce qu'il se pense le mieux placé à droite, tous les autres partis redoutent bien sûr une présidentielle et plus encore, parce qu'elle est plus proche, une nouvelle dissolution. Les macronistes, la droite LR, le parti socialiste, les écologistes et les communistes la craignent parce qu'ils savent combien ils risquent de perdre dans l'aventure un nombre de députés conséquents. Le Front républicain a été dynamité par la Macronie, qui a mis un signe égal entre LFI et le RN. On ne sauvera donc plus Elisabeth Borne face au RN avec des électeurs de gauche. Idem pour les députés de droite, qui n'entendent plus s'entendre dire à longueur de plateau télévision qu'ils ont été élus grâce à la gauche. Alors tous font mine dans un jeu de poker menteur, comme vous l'avez dit, de ne pas craindre la dissolution, tout en maximisant les enchères pour obtenir un accord de non-censure qui leur permettrait de ne pas perdre leur siège.
Laurence Perron pour La Politique à Inter. Grand merci à vous. L'ancien ministre de la Santé, le LR Yannick Noether, lui, a été approché par Sébastien Lecornu, d'après ses dires, mais il a refusé d'intégrer son gouvernement en conscience, précise-t-il sur son compte X. Et si Sébastien Lecornu doit s'activer pour former son gouvernement, c'est notamment pour présenter demain son projet de budget. On va revenir sur ce calendrier très serré, mais sur le fond d'abord. Qu'y a-t-il dans ce texte budgétaire? On parle ici de la copie rédigée par François Bayrou, amendé par le premier gouvernement Lecornu, aussi éphémère fut-il. Et bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir Amélie.
Chef du service économie et sociale de France Inter, un projet de budget en cours de réécriture par Lecornu 2.
Alors il y a une forme de consensus sur la nécessité de lutter contre l'optimisation fiscale et particulièrement ses actifs cachés dans des holdings. On sait que Bercy planchait encore ces tout derniers jours sur une taxe sur le patrimoine non professionnel des sociétés. Taxe exceptionnelle aussi sur les grandes entreprises. Mise en place l'an dernier à titre provisoire, elle devrait être reconduite. Côté recettes encore parmi les pistes, la contribution minimale des très hauts revenus à hauteur de 20% pour les personnes gagnant plus de 250 000 euros par an. La refonte de l'abattement de 10% pour les retraités et un nouveau coup de rabot sur les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises. Selon nos informations, tout cela pourrait rapporter entre 10 et 15 milliards d'euros. Dans les tuyaux aussi, des mesures pour le pouvoir d'achat, notamment la baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples gagnant un petit peu plus que le SMIC. Enfin, plusieurs pistes restent ouvertes. La réforme des retraites, l'année blanche sur les prestations sociales, la taxation des complémentaires santé. Cela dépendra aussi de l'effort souhaité par le nouveau gouvernement.
Agnès Soubiran, merci à vous. Mais dans cette partie de poker où la pendule tourne, quelles sont les marges de manœuvre du Premier ministre pour comprendre? Notre invité ce soir est Jean-Philippe de Rosier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. On n'a pas arrêté de dire que Sébastien Lecornu avait un compte à rebours au-dessus de la tête. Doit-il réellement présenter son budget 2026 demain?
Non, il a encore un petit peu de temps. En réalité, il a déjà dépassé le délai prévu par la loi organique relative aux lois de finances, qu'on appelle la LOLF dans notre jargon, qui impose de déposer le projet de loi de finances le premier mardi d'octobre. Et on voit qu'il est déjà dépassé depuis presque 15 jours. Donc voilà, on a fixé, on a évoqué, davantage dans la presse d'ailleurs que dans le droit, ce délai de demain, parce que cette date qui permettrait d'adopter le budget dans les 70 jours prévus par la Constitution et de permettre au Conseil constitutionnel de contrôler ensuite la loi qui aurait été ainsi adoptée. Mais si jamais ce délai n'est pas respecté, eh bien il y a d'autres mécanismes qui peuvent être mobilisés, soit une discussion plus rapide, ça peut être un premier élément, soit ce qu'on a vécu l'année dernière, l'adoption d'une loi spéciale, et sans avoir de boule de cristal, je pense que c'est surtout vers cela que l'on va s'orienter.
Est-ce que Sébastien Lecornu peut présenter son budget sans avoir nommé son gouvernement ?
Non, cela ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est pas Sébastien Lecornu qui nomme son gouvernement. C'est le président de la République qui, sur proposition de Sébastien Lecornu, Premier ministre, nommera le gouvernement. Et Sébastien Lecornu est Premier ministre. Il n'est pas démissionnaire, lui. Il a démissionné, il a été renommé. Oui. Donc, il est Premier ministre de plein exercice, mais il ne dispose pas des attributions du ministre des Finances. Donc, il ne peut pas, lui, déposer le projet de loi qui doit lui être proposé par le ministre des Finances. Et celui-ci est à ce stade démissionnaire, donc il n'est pas en mesure de le faire. Il faut bien qu'il y ait une renomination d'un gouvernement de plein exercice pour que ce projet de loi de finances puisse passer en Conseil des ministres d'abord et être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ensuite.
Est-ce qu'un gouvernement peut être nommé pendant qu'Emmanuel Macron est à l'étranger, en Égypte en l'occurrence ?
Alors, la Constitution ne fixe pas de territorialité, c'est-à-dire elle ne dit pas que le président de la République doit nommer le gouvernement lorsqu'il est en France. Ça a toujours été l'usage, ne serait-ce que parce que le Premier ministre doit proposer au président de la République, donc il faut que quelque part il se voie. Mais bon, la Constitution a été écrite à une époque où on ne disposait pas des techniques que l'on connaît aujourd'hui, de visioconférences sécurisées. Ce serait une possibilité, mais bon, étant donné qu'on traverse déjà une époque un petit peu troublée politiquement, ajouter du trouble au trouble, je ne suis pas sûr que ce soit très sain, et il serait donc préférable que l'on attende que le président de la République revienne ou que l'on fasse avant qu'il ne s'en aille.
Le Premier ministre doit avoir formé son gouvernement avant de prononcer sa déclaration de politique générale ?
Oui, cela, c'est indispensable qu'il prononce cette déclaration sur le fondement de l'article 49, comme l'a fait François Bayrou. Donc je doute qu'il emprunte ce chemin-là. Mais s'il l'empruntait malgré tout, la réponse serait la même. Ou l'autre alternative, c'est sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution. Dans l'un et l'autre cas, c'est bien le gouvernement qui est visé. Et donc, il faut bien qu'il y ait un gouvernement qui ne saurait se cantonner au seul Premier ministre.
C'est seulement à partir de la déclaration de politique générale, devant l'Assemblée nationale, qu'il peut y avoir une motion de censure ?
Non, la motion de censure ne peut être déposée qu'à partir du moment où on a un gouvernement. La déclaration de politique générale n'est pas constitutionnellement obligatoire. C'est la particularité de notre 5e République. Le gouvernement peut la faire, le Premier ministre peut la faire, mais il n'y est pas constitutionnellement tenu. Il n'est d'ailleurs pas constitutionnellement tenu d'engager la responsabilité du gouvernement sur cette déclaration de politique générale. François Bayrou l'a fait le 8 septembre, mais il ne l'avait pas fait en janvier.
Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille et titulaire de la chaire d'études parlementaires. Vous avez certainement de nombreuses questions, vous aussi, chers auditeurs. En tout cas, vous avez été nombreux à appeler le Standard de France Inter cette semaine pour dire ce que vous pensez de la crise politique. Alors demain, on vous fait de la place, on vous donne la parole dans la matinale dès 6h20, dans le 13-14 et dans le téléphone sonne, bien sûr. La France en crise politique, comment on s'en sort? Vous pouvez déjà nous laisser des messages WhatsApp au 01 45 24 7000. Le Standard ouvre demain matin dès 5h30.
France Inter, Amélie Perrier.
Se donner la mort quand on n'a que 9 ans, la mort d'une petite fille, bouleverse aujourd'hui la Moselle et Sarreguemines. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle se serait suicidée. Le recteur de l'académie et le directeur académique ont fait part de leur émotion dans un communiqué. À ce stade, Robin Schmitt, on ne sait pas ce qui a pu conduire l'écolière à un tel geste, mais une lettre a été retrouvée.
Une note d'adieu à destination de ses parents, indique le parquet de Sarreguemines, qui ajoute, je cite, que des difficultés relationnelles ont pu être évoquées par les parents de cette petite fille de CM2. Les premières constatations et l'examen du corps par le médecin légiste sur place sont formelles. Il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers, c'est-à-dire que cette petite fille a bien voulu se donner la mort. C'est pour cela qu'il n'y aura d'ailleurs pas d'autopsie. La communauté éducative se dit aujourd'hui bouleversée par cet événement. Dans un communiqué du rectorat de Nancy-Metz, qui dès demain matin va mettre en place une cellule psychologique. Des psychologues de l'éducation nationale vont intervenir auprès des enseignants et des élèves dans l'école élémentaire Montagne Supérieure. C'est là qu'était scolarisé l'enfant à Sarreguemines. Une enquête en recherche des causes du décès est ouverte par le parquet pour tenter de comprendre ce qui a mené cette petite fille à se donner la mort.
Lui était professeur et a été tué à cause de l'un de ses cours sur la liberté d'expression. Samuel Paty, poignardé puis décapité à la sortie des cours par un islamiste il y a 5 ans. Un parc de la ville d'Éragny-sur-Oise a été rebaptisé à son nom aujourd'hui. La région Île-de-France annonce également qu'un futur lycée de Seine-et-Marne portera son nom. La semaine débutera au point mort demain à l'usine Stellantis de Poissy en région parisienne. 3 semaines d'arrêt de la production et de chômage technique pour ces 2000 ouvriers. Le secteur est à la peine en Europe. Les voitures se vendent mal. Et Poissy n'est pas seul à lever le pied. À Sochaux et Mulhouse, on a débrayé aussi quelques jours ce mois-ci. Sophia Berada, c'est l'illustration d'une filière qui peine à s'adapter à une conjoncture incertaine.
Les usines françaises construisent beaucoup plus de voitures qu'elles n'en vendent. Et le cas Stellantis est le plus marquant. Les ventes du groupe reculent de plus de 9% depuis janvier. Selon l'économiste Bernard Julien, c'est en grande partie dû à la hausse des prix. Une voiture neuve coûte en moyenne 34 000 euros contre 28 000 euros il y a encore 5 ans. Pour ce qui est de Stellantis, l'entreprise propose peu de rabais. Elle vend peu de véhicules aux entreprises et les affaires liées aux airbags Takata et aux moteurs PureTech ont abîmé l'image de ces marques. Renault-Nissan, l'autre grand constructeur français, n'est pas en reste. Des rumeurs de suppression de postes courent depuis quelques semaines, mollement démenties par la direction. Du côté des équipementiers, il y a ces derniers mois de nombreux plans sociaux. On peut citer Michelin ou encore Valeo et la filière s'attend à ce que cela continue. Enfin, le passage à l'électrique, l'objectif fixé par l'Union européenne, la fin des véhicules thermiques neufs à l'horizon 2035, est remis en cause par des industriels et des politiques. Pour le secteur, c'est une pression supplémentaire dans un climat d'incertitude.
Sophia Berada, une dernière information politique, puisqu'on apprend à l'instant que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, est à l'Élysée en ce moment même pour s'entretenir avec Emmanuel Macron. Lui, il a filé vers les sommets plus vite qu'une Formule 1. Ousmane Dembélé, l'attaquant du PSG, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, est venu présenter aujourd'hui son ballon d'or au sien à Évreux, dans l'Eure, la ville où il a commencé le football en 2004. Il a reçu la médaille de la ville, mais surtout les acclamations de milliers de supporters venus voir en vrai leur fierté locale. C'est le reportage de Fanny Imbert.
Ils étaient des centaines cet après-midi sur le parvis de l'hôtel de ville à attendre le retour de l'enfant du pays.
C'est le meilleur, parce qu'il est d'Évreux, il est de chez nous.
Depuis la Coupe du Monde, je le suis tout le temps.
Ah, moi aussi.
Franchement, il a fait une bonne saison là, je trouve. Hein.
Ah ouais, ouais. Il faut qu'il continue. Puis l'année prochaine, il sera encore ballon d'or.
Ouais.
En espérant qu'il nous signe un maillot. Ça fait plaisir parce qu'il représente le quartier de la Madeleine.
Et c'est avec fierté qu'on vient de l'accueillir ici.
Acclamé en véritable star, l'attaquant parisien a ensuite reçu la médaille de la ville des mains du maire.
À chaque moment difficile, vous avez été ma force. Voilà, mon enfance ici à Évreux, elle a été exceptionnelle. Et surtout, merci à vous. C'est pas encore fini, on va monter à la Madeleine pour fêter tout ça.
Le quartier de la Madeleine, c'est là qu'il a tapé dans ses premiers ballons, au pied des tours HLM. En s'y promenant cet après-midi, il a même croisé son institutrice de CM1.
C'était un garçon très sympathique, très rigolo. Il avait beaucoup de souvenirs, on a bien rigolé sur des anciennes photos. Non, c'est sympa, comme quoi, hein. On peut devenir ballon d'or, mais on reste pareil. Hein.
La fête va se prolonger tard, ce soir, dans le quartier de la Madeleine, pour célébrer la saison magistrale qui a valu le ballon d'or à l'attaquant parisien.
Ousmane Dembélé qui ne sera pas demain à Reykjavik avec l'équipe de France, absent comme le capitaine Kylian Mbappé pour le match contre l'Islande, rencontre qualificative pour le mondial de l'an prochain. La météo.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous.
Encore beaucoup de grisailles au lever du jour pour ce lundi.
Oui, une grisaille qui sera présente du Poitou à la Bourgogne et une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme aujourd'hui, ces nuages bas se dissiperont alors plus ou moins rapidement pour laisser place aux éclaircies. En revanche, de la Normandie au Grand Est, en passant par l'Île-de-France, ils seront plus tenaces. L'ambiance devrait d'ailleurs rester grise une grande partie de la journée, avec quelques bruines qui seront possibles dès le matin. Et puis sur le reste du pays, on aura des brouillards, surtout en plaine, mais ils se dissiperont rapidement. Dans l'après-midi, l'arrivée de nuages sur les Pyrénées, la Corse et les Alpes, où là aussi on aura quelques averses.
Pour les températures, pas de changement.
Oui, ça commencera à baisser tout doucement à partir de mardi, mais en attendant, c'est stationnaire, avec une moyenne de 6 à 11 degrés le matin sur l'est du pays, 8 à 13 degrés sur l'ouest et près de la Méditerranée. Quant au maximal, elles iront de 16 à 26 degrés du nord au sud.
Merci Céline Dacosta.